sur les Commanders de Washington.
Merci beaucoup, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est avec nous, exceptionnellement en ce mardi, puisqu'on avait 3 jours de congé. J'espère qu'il s'est reposé. C'est un gros travaillant, Nick. Nick est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Est-ce que tu es là?
Oui, je suis là. Bon matin, tout le monde.
Ah, bon matin, mon ami. C'est le fun de te jaser. Parler un peu d'actualité. Je ne sais pas si tu suis régulièrement le secteur argent sur le site du Journal de Québec et Journal de Montréal. Où vont vos impôts? J'imagine que tu es abonné à cette page-là. 228 200 $ pour un coach collaboratif. C'est la Société québécoise des infrastructures qui a engagé un coach collaboratif à ce prix-là pour la réfection du palais de justice de Québec. On dit que certaines composantes de l'enveloppe extérieure du bâtiment construit à la fin des années 80 ont atteint leur vie de leur fin de vie utile et des travaux de mise aux normes sont aujourd'hui nécessaires. Et on dit que c'est entre 50 millions et 100 millions que ça peut coûter quand même, 50 millions de différence. Ça, c'est toujours bien exceptionnel là, quand tu vois un gap de cette ampleur-là. Je sais pas si toi, tu gères tes affaires de même, Nick, mais c'est un coach collaboratif. On n'a pas ce genre de connaissances-là au gouvernement, justement, pour apprendre à négocier avec les entrepreneurs, avec les professionnels qui sont chargés de la conception?
Ben, apparemment, non. C'est-à-dire que vu que la réfection de là, on parle quand même là, du palais de justice de Québec qui a été construit en 1983. Fait que on s'entend que l'immeuble est dû pour avoir des rénovations assez importantes. Puis là, comme tu l'as mentionné, on parle de rénovations qui peuvent varier entre 50 et 100 millions de dollars. Puis ben apparemment, on voit pas ça très souvent au gouvernement du Québec. Fait qu'ils se sont dit on va aller engager quelqu'un de l'externe qui va pouvoir nous aider à prendre les bonnes décisions pour s'assurer à ce qu'on respecte les échéanciers, puis que les coûts soient raisonnables, puis que, dans le fond, la conception soit bien faite et tout ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que, bon, comme on vient à la fameuse, au fameux gap entre 50 et 100 millions, quand on se fait donner des coûts préliminaires comme ça, on peut s'attendre à des dépassements de coûts assez rapidement. De toute manière, au Québec, on est quand même assez habitué à ça. Ben, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on va se retrouver avec une facture qui va être assez salée, qui va être effectivement avec des dépassements de coûts monumentaux. Puis finalement, on va nous dire, ben, écoutez, ça aurait pu être pire si on n'avait pas eu de coach collaboratif. Fait qu'on a bien fait d'en avoir un malgré tout. Puis là, je me dis, tu sais, à 228 000 $ j'ai hâte de voir c'est quoi l'impact sur la facture. Est-ce que ça va vraiment permettre aux contribuables d'en avoir plus pour leur argent? Ben, moi, je pense que la question vaut la peine d'être posée, surtout que ce n'est pas une pratique courante qu'on a vue dans d'autres ministères ou dans d'autres sociétés d'État québécoises. Fait qu'en tout cas, on verra ce que ça donne, mais au Québec, on semble être vraiment assez, comment dire, adorer les coachs. Je me souviens, il y avait une nouvelle qui était sortie à peu près il y a un mois où est-ce qu'on apprenait que le gouvernement du Québec dépensait pas loin de 222 000 $ pour engager des coachs en gestion. Puis pourquoi? Ben, c'était pour dépendre moins des coachs externes. Fait qu'on va engager des coachs pour être moins dépendants des autres coachs. Fait que c'est un peu comme, je sais pas comment dire ça, c'est le chien qui mord sa queue littéralement. Puis ben dans ce cas-ci, encore une fois, on se tourne vers l'externe en espérant que ça va réduire des coûts, mais on dépense encore l'argent des
Ouais.
contribuables pour ce faire. Fait que c'est dur à convaincre.
Je sais pas, Jeff, toi ou ben Nick, là, mais puis même Max, quand vous voulez faire des rénovations chez vous, faites venir un entrepreneur, là. Puis là, tu veux des belles rénovations, des rénovations majeures, là, tu veux remettre ça au goût du jour. Puis là, il te dit, regarde, il te regarde bien droit dans les yeux, Nick, là. Il dit, tes rénovations, ça va te coûter entre 500 000 puis 1 million. T'embarques-tu?
Ben non!
C'est juste 500 000 de différence?
Oui, mais c'est bien trop large comme braquette de prix. Ça va te coûter entre 500 000 et 510 000. Bon, OK, puis on jase 10 000 en cours de route, mais pas la braquette, pas le double, vierge.
Parce que là, on nous parle de... ça va coûter entre... Les rénovations du Palais de justice, ça va coûter entre 50 millions et 100 millions, puis on embarque là-dedans. Fait que là, t'es l'entrepreneur qui sait que je peux monter jusqu'à 100, là.
Oh oui.
Mettons qu'il signe à 50, là.
Il va s'en avoir des heures additionnelles, tu penses?
Il y avait un budget entre 50 et 100. C'est moi qui ai remporté l'appel d'offre. Des fois, tu découvres des affaires. Non, mais c'est-tu tout le temps géré de même, Nick, les projets au public? Voyons, 50, c'est 50 à 100 millions. Il y a quand même une différence d'évaluation, là.
Ah oui, bien c'est la manière que l'évaluation a été faite, puis c'est sûr que c'est l'évaluation selon, dans ce cas-ci, la Société québécoise des infrastructures. Fait que de leur côté, ils ont fait tout leur projet de développement, puis ils ont fait un plan préliminaire et tout ça, puis ils sont arrivés à la conclusion que selon l'échéancier, si c'est respecté tout ça, si tout va bien en bonne et due forme, le plus beau auquel on devrait s'attendre, c'est 50 millions. Mais si on y va avec un scénario catastrophe où est-ce que finalement, je sais pas, on se retrouve avec une autre pandémie, je sais pas, ils ont peut-être calculé un paquet d'autres scénarios loufoque, mais au final, ils se sont dit, ben, écoutez, oui, ça peut aller jusqu'à 100 millions de dollars. Je trouve que c'est effectivement déraisonnable. Il devrait avoir un coût beaucoup plus, comment dire, une idée des coûts beaucoup plus intéressante et aussi beaucoup plus complète avant que les travaux soient entamés. Là, ils sont déjà en train d'aller chercher un coach collaboratif pour déterminer finalement ça va être quoi le coût réel. Fait que c'est un peu niaiseux, mais on dirait que c'est pour ça qu'ils sont allés chercher quelqu'un à l'externe. C'est parce que ils ont tellement une idée assez vaste des travaux dans lesquels ils vont s'embarquer. Savoir à quoi s'attendre au niveau des coûts. Fait qu'ils ont été engagés quelqu'un pour leur dire combien ça va coûter finalement. Fait que c'est un peu ridicule, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça au Québec. À plusieurs reprises, on voit des projets d'infrastructure qui sont autorisés avec des coûts bien, bien inférieurs à ceux avec qui on se retrouve à la fin quand ils sont
Parce que
complétés, là.
comme Jeff dit, on parle de rénovations qui sont majeures. Là, on dit c'est entre 50 et 60 millions parce qu'il y a toujours des surprises. Quand on ouvre les murs, toujours des surprises. Entre 50 et 60 millions. Puis là, ben toi, t'espères, parce que c'est ton argent, t'espères que ça soit plus proche du 50 que du 60. Mais là, on embarque là-dedans, c'est entre 50 et 100. Sacrifice, qu'on est donc bien mauvais.
Ben, c'est parce que ça laisse place à des sacs-clics, mais dans le domaine de la construction, là, en laissant une marge de manœuvre comme ça aux entrepreneurs, on va tout simplement facturer des charges additionnelles en cours de route, puis vu qu'on a le bras dans le tordeur, ben, on dit oui, puis on avance.
Avec la Fédération canadienne des contribuables, Nick, on parle de Mark Carney, le premier ministre du Canada, qui veut confier à Revenu Canada le soin de remplir vos déclarations d'impôts à votre place. J'imagine que ça ne sera pas applicable à tout le monde.
Pas applicable à tout le monde pour l'instant, parce que faut rappeler que c'est un projet de pilote qui a commencé sous Justin Trudeau initialement en 2023, où est-ce que l'Agence de revenus du Canada va éventuellement automatiser en fait les déclarations d'impôts, c'est-à-dire qu'ils vont remplir la quasi-totalité des informations qui vous affectent en fait là, par rapport à vos propres déclarations de revenus, et ils vont mettre ça à votre place, puis vous envoyer le document où ils vont juste vous rester à le signer, puis à confirmer l'information qui est indiquée dessus, puis de le retourner le document à Revenu Canada. Donc c'est un projet pilote qui a déjà été mis en place et qui veulent élargir. C'est assez particulier parce que au courant des derniers mois, il y a eu une consultation publique qui a été faite par le gouvernement du Canada pour justement savoir si on allait aller de l'avant avec ce genre de projet pilote-là. Et là, ben, finalement, à peine même pas 24 heures, c'est pas une blague, la consultation elle a pris fin jeudi dernier, jeudi dans la journée, et le lendemain matin, Mark Carney annonçait finalement qu'il allait déployer au courant de la prochaine année, en fait, le fameux système de déclaration de revenus automatique et qui va surtout s'appliquer d'abord aux moins nantis au Canada, donc ceux qui ont des revenus plus précaires. Et pourquoi? Ben, c'est parce que généralement, trop souvent, il y a beaucoup de gens parmi eux qui ne font pas leur déclaration d'impôt. Donc, ils vont pas toucher les différentes allocations et crédits d'impôt qui leur reviendraient. Et donc, c'est des personnes qui pourraient effectivement profiter, dit-on, de ce fameux programme-là. Moi, il y a deux affaires qui me dérangent, par exemple, là-dedans. C'est la première, c'est de un, qu'on fasse une consultation publique qui dure plusieurs mois, puis en même pas 24 heures, apparemment, on a pris le temps de passer à travers tous les courriels, puis tous les rapports qui ont été soumis par tous les organismes, puis on décide d'aller de l'avant pareil, alors que je suis persuadé que si on va voir les courriels de la consultation publique qui ont été soumis par bien des gens dans la société civile, plus des organismes, plus des organisations de comptables et autres, on réaliserait à quel point c'est vraiment pas une idée qui est populaire de donner plus de pouvoir à l'Agence du revenu du Canada, qui, honnêtement, on s'entend, on a vu au cours des dernières années, on a augmenté les effectifs, on a augmenté les budgets, on a augmenté, en fait, à tous les niveaux, on a mis vraiment le paquet sur Revenu Canada pour avoir moins de services, avoir une qualité là, en fait, du traitement des dossiers qui vraiment laisse énormément à désirer. Puis là, on va donner encore plus de pouvoir à Revenu Canada qui va faire nos déclarations de manière automatique. Il y a beaucoup de gens qui s'y opposent, mais soudainement, le gouvernement fédéral. Parce que Mark Carney, lui, s'était déjà fait une idée à peine le lendemain. Puis il y a une autre chose, comme je disais, de donner plus de pouvoir à Revenu Canada dans les circonstances, c'est un peu particulier, là. Je veux dire, aussi humble que ça puisse paraître, et gentil de la part de Carney de se soucier des plus précaires, n'en reste que est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de Revenu Canada de maximiser nos retours d'impôts? Pas tout à fait. C'est plus l'inverse. Eux, ils veulent maximiser, aller en chercher davantage dans nos poches. Donc, de donner plus de pouvoir à Revenu Canada dans les circonstances, je ne suis pas sûr que ce soit
OK.
nécessairement la meilleure des
Ouais.
idées. Puis au final, ben, il y a des gens que leur déclaration d'impôt va être faite. Ils ne vont peut-être pas se soucier des détails et peut-être se faire avoir au détour là, par l'agence.
Mais avec ça, avec les nouvelles façons de faire qui seraient des automatismes, là, ce serait les fonctionnaires ou les ordinateurs ou l'intelligence artificielle qui fait ton rapport d'impôt. On enlève combien de fonctionnaires dans la machine? Est-ce que ça a été chiffré? Parce que je veux dire, si les choses s'améliorent puis on fait les rapports d'impôt automatiques pour les moins bien nantis, ça veut dire que c'est les ordinateurs qui s'occupent de ça, là. C'est plus nécessairement un être humain qui traite chaque déclaration d'impôt à mitaine comme on faisait dans le temps, là.
Ben, honnêtement, c'est une très bonne question parce que tu sais, chez Revenu Canada, veut pas, c'est quand même littéralement l'appareil fédéral qui est le plus populeux. Si on veut, en termes de fonctionnaires, il y a pas loin de 52 000 personnes qui y travaillent. C'est une augmentation des effectifs là, de 33% au courant des 10 dernières années. Fait qu'on a quand même augmenté de manière assez drastique. Pour donner une idée, tu sais, au Canada, on a à peu près. Je veux dire, je pense qu'on a 800 Canadiens pour un. Ben en fait, quand on prend le ratio du nombre de personnes qui travaillent chez Revenu Canada versus le nombre de Canadiens, on a à peu près un fonctionnaire pour 800 Canadiens. Mais quand on va, par exemple, aux États-Unis pour voir la Internal Revenue Service, la IRS, ben ils ont à peu près 90 000 fonctionnaires. Fait que quand tu fais le calcul, ils ont un fonctionnaire pour 3 800 Américains. Fait que finalement, je pense qu'un des appareils en termes de percepteur d'impôts qui est plus efficace que l'autre. Et pourquoi? Ben parce que essentiellement, la fiscalité américaine est plus simplifiée que celle au Canada. Fait que, il y a deux affaires qu'on doit regarder. De un, à quel point on a complexifié la fiscalité canadienne au cours des dernières années à coup de nouvelles taxes ou à coup de modifications fiscales qui ont été faites. Plus on a augmenté la taille de la machine sans augmenter l'efficacité. Fait qu'on se retrouve avec tout ça. Et là, on se dit, ben, malgré tout, on va en plus automatiser les déclarations de revenus en disant qu'on va être plus efficace de cette manière-là, alors qu'on n'a jamais été en mesure d'en faire la démonstration avec tous les fonctionnaires et l'argent qui a été engagé dans la machine au cours des dernières années. C'est pas une blague, là. Au cours des 10 dernières années seulement, on avait un budget chez Revenu Canada au niveau des dépenses opérationnelles qui est passé de 5 milliards à pas loin de 16 milliards, là, qui a presque triplé. Fait que on se dit, ben, OK, ben, est-ce qu'on va se retrouver avec un saclic fédéral, finalement, avec un nouveau système qui va coûter extrêmement cher à mettre en place, à déployer, puis au final, qui va pas du tout économiser de l'argent à la machine, mais plutôt nécessiter des embauches supplémentaires, comme on l'a vu trop souvent. Au fédéral, on a aussi vu des flops comme Phoenix aussi, qui était supposé régler la situation, qui était supposé coûter quelques centaines de millions. Puis on s'est retrouvé avec des déboires qui ont coûté des milliards, puis qui n'ont toujours pas été réglés plus de 10 ans plus tard. Fait que, on espère qu'on ne va pas voir ce scénario-là se reproduire, mais une chose est sûre, il ne faut pas donner plus de pouvoir à l'Agence de revenus du Canada. C'est moins de pouvoir que cette agence-là devrait avoir, tout simplement.
Oui, puis juste une petite parenthèse, Nick, par rapport à ça, pour avoir déjà travaillé avec les clientèles vulnérables, il faut leur redonner le pouvoir de prendre leur vie en main. Fait que si le gouvernement fait leur rapport d'impôt pour eux autres, oublie ça, on ne cheminera jamais.
Exact, c'est ça, c'est qu'au final, on contourne pas mal un processus important qui est celui de l'éducation financière
En
qui
plein
devrait être
ça.
beaucoup mieux appliquée et mieux transmise. Puis à la place, bon, on va effectivement faire les déclarations à la place des gens. Puis malheureusement, je veux dire, peut-être que dans certains cas, ça va être avantageux. Comme on sait, il y a des gens malheureusement qui font pas leur déclaration d'impôt puis qui sont pénalisés par ça de facto. Mais de l'autre côté, il y a tous ceux qui vont devoir se battre avec l'impôt parce que dites-vous que si la déclaration est automatisée, que là, vous recevez la déclaration pré-remplie, puis vous réalisez qu'il y a des informations qui sont pas vraiment, qui reflètent pas la réalité du tout, en fait, bien, vous allez devoir vous battre avec le fisc pour avoir gain de cause. Fait qu'imaginez ça à l'échelle fédérale, à l'échelle nationale, et pas par dizaines de milliers de cas par année. On n'est pas sorti du bois, là, si jamais on se retrouve
Et crème
avec
que non.
des dossiers comme ça. Malheureusement, en tout cas, ça dépend pour qui, mais dans les circonstances, je pense que pour le plus grand nombre, on n'est pas avantagé par cette situation-là, mais Carney va aller de l'avant. Semble-t-il que l'annonce va être complétée au lendemain du budget qui va être déposé le 4 novembre prochain.
Ouais, j'étais à Cardinal Leroy au centre-ville de Québec, c'était à l'école secondaire. Je sais que des fois, tu doutes que j'ai été au secondaire, là, mais bref. Mais ma 4e année du secondaire, ça a été mes 10 plus belles années de ma vie, là. Mais j'étais tombé sur un prof qui était franchement intéressant, qui, au lieu de nous faire coudre des boxeurs, au lieu de nous faire coudre
En économie familiale.
Des étuis à crayon, au lieu de nous faire faire plein de patentes, plein de gogosses qui nous servaient à rien, il nous avait montré comment remplir un rapport d'impôt
Ouais.
en secondaire 4. Puis tu sais quoi, je me suis rendu compte que c'était un prof qui était unique, parce que quand j'en parlais à d'autres mondes, nous autres, on a fait un rapport d'impôt, puis c'était un cours sur la fiscalité et tout ça, les gens me disaient, ben voyons, on n'a pas eu ça au secondaire. Moi, je l'ai eu. J'ai eu la chance de tomber sur un gars qui m'a fait économiser énormément d'argent parce que j'étais capable de faire mes rapports d'impôts et puis je l'ai fait pendant 20 ans. Aujourd'hui, je le fais plus parce que ça me tente plus, mais il y a plein de gens qui ont eu ça au secondaire qui aujourd'hui sont capables de faire leur rapport d'impôts. Jeff, c'est exactement ce qu'il mentionnait, c'est qu'on veut impliquer les gens à être de plus en plus autonomes.
Ben oui.
Ben peut-être l'amener au secondaire comme moi, je l'ai eu dans
quel
le temps,
bon point.
C'est un cours sur sur l'impôt puis comment remplir son rapport d'impôt. Parce qu'en bout de ligne, c'est pas très compliqué quand tu commences et que tu es étudiant. Tu as besoin de tes papiers tout simplement, tu remplis les cases, puis merci, bonsoir, tu envoies ça au gouvernement. Puis si tu as accès à des chèques qui peuvent te renvoyer, ben let's go, ils vont te les envoyer. Là. Mais faudrait mettre ce cours-là directement au secondaire, Nick.
Totalement d'accord. Puis ça fait longtemps qu'il y a des discussions dans les différents partis politiques, au provincial, puis au fédéral, surtout au provincial, parce que c'est là que l'éducation est le champ de compétences. Là. Fait que il y a souvent cette discussion-là dans plusieurs ailes jeunesse aussi que que c'est revenu de l'avant, où est-ce qu'on parlait de cours d'éducation financière au secondaire ou même au primaire pour donner les premières bases pour comprendre un peu les rouages de l'économie puis de la fiscalité. Ne serait-ce que jeune, comme tu l'as dit, qu'on fait une déclaration d'impôt quand on est étudiant, c'est assez simple. Mais la réalité, c'est qu'une déclaration d'impôt, quand plus on avance dans l'âge, plus on travaille, plus on réalise qu'il y a des informations qui peuvent des fois nous être manquantes, ouais, et qui peuvent être difficiles à confirmer sur le papier comme tel. Donc, c'est pour ça que des fois, on va se tourner vers un comptable ou un fiscaliste. Ceci étant dit, la solution, c'est pas d'automatiser les déclarations d'impôt pour simplifier la machine. C'est carrément de simplifier les déclarations d'impôt comme tel. Puis comment tu peux faire ça? Ben, c'est en baissant les impôts ou en retirant des impôts qui sont non nécessaires ou en rendant essentiellement la lecture des documents fiscaux plus simplifiés. Mais je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites avant même que l'agence du revenu se mette à faire nos déclarations à notre place, en refusant même de nous transmettre l'éducation qui serait nécessaire pour comprendre ce qui se passe littéralement avec notre argent et avec nos impôts.
Et on termine avec ce sujet-là. On parle de subventions aux entreprises. La CAQ qui l'a échappé ben raide dans ce qui a trait aux subventions des entreprises. François Legault, beau dire, faut me juger par rapport à ma moyenne au bâton. Mais là, quand tu vois les centaines de millions et les milliards qu'on perd...
c'est 1 milliard de perdu dans 5 grandes entreprises. Fait que la moyenne au bâton est faible si tu le prends au pourcentage d'argent.
Ouais, puis tu sais, c'est l'argent qu'on perd, c'est de l'argent que nous, on travaille puis qu'on envoie directement au gouvernement. Puis t'as un François Legault qui dit, ben là, jugez-moi par ma moyenne au bâton. Bon, lui, c'est de cette façon-là qu'il voit ça. Puis là, le PQ, ben, voit que la coalition Avenir Québec semble éprouver certains problèmes en ce qui a trait à l'aide aux entreprises, décide d'embarquer là-dedans. Mais pour les plus vieux qui s'en souviennent, là, le PQ a quand même assez un long passé en ce qui a trait aux subventions. Ils ont été extrêmement généreux là, quand ils étaient au pouvoir.
Ben oui, ben effectivement. Je suis content de voir le Parti québécois sursauter sur ce dossier-là également, puis commencer à parler des subventions aux entreprises. On le sait, c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup parler au cours des dernières années, notamment avec toutes les histoires de Nordvolt et de Lion Électrique et autres qui ont pas mal, ébranlé là, l'imaginaire de bien du monde, parce qu'on se dit, OK, nos impôts servent carrément à faire des paris qui finalement partent en fumée. Mais il faut dire aussi que le Parti québécois, en tout respect, moi, je pense que c'est une très bonne chose qui se tourne, entre autres, pour dénoncer l'utilisation du Fonds de développement économique, le FDE, dans lequel le gouvernement Legault a quand même perdu d'une certaine manière pas loin de 5,1 milliards de dollars depuis 2019 à travers tous les investissements qui ont été faits et autorisés par l'ancien super ministre que t'aimais tant, Yannick, un certain Pierre Fitzgibbon. Fait que, tu sais, ça, je comprends qu'on peut dénoncer ça parce qu'on voit à quel point cet argent-là a été mal utilisé. Et moi, ce que j'espère, c'est que ces partis-là vont être conséquents parce que, comme tu l'as mentionné, dans le cas du Parti québécois, ils ont quand même un historique en ce qui a trait là, aux subventions aux entreprises. La cimenterie mécaniste à part Daniel, ça nous a quand même un bras. Alors, on parle quand même de centaines de millions de dollars. Il y a la papier Gaspésia aussi, dans lequel on a pas loin de 472 millions de dollars qui a été perdu. Il y a aussi le projet Magnolia à Asbestos, ou plutôt Val des Sources à cette heure. On a le Technodome, on a Stornoway. Donc, on a quand même beaucoup de projets sous les gouvernements du Parti québécois au coin des 25, ben, du moins 25 dernières années. Ils ont été au pouvoir entre 1999 et 2003, puis sinon en 2013, puis pendant 2014, puis pardon, 2012 et 2014, pardon. Donc, ils n'ont pas été souvent au pouvoir, mais les quelques fois qu'ils l'ont été, ils ont démontré qu'eux aussi, ils aimaient les subventions aux entreprises. Donc, est-ce qu'on assiste à un virage de la part du PQ par rapport à cette position-là? Je l'espère. Puis honnêtement, on est tous avantageux. On est tous avantagés, en fait, à ce que le maximum de partis politiques à l'Assemblée nationale ou à l'extérieur s'entendent pour dire que le gouvernement ne devait pas prendre l'argent des contribuables pour faire des paris risqués, comme ça a été fait trop souvent sous François Legault. Ce que je trouve décevant, c'est que Christine Fréchette, elle, de son côté, qui est ministre de l'Économie, elle défend cette position-là. Elle pense que le Parti québécois est irresponsable de dire ça, qu'apparemment, le gouvernement devrait continuer à investir, entre guillemets, de stimuler l'économie avec votre argent, alors qu'au final, on a vu les résultats. Donc, que le Parti québécois se range de ce côté-là, je suis content. Je vois que le Parti conservateur du Québec, on va les citer. Ça fait longtemps qu'ils martèlent qu'on devrait remplacer les subventions par des baisses d'impôts. C'est exactement ce que nous aussi, on martèle de notre côté à la Fédération canadienne des contribuables. Et j'espère qu'éventuellement, ben, le Parti libéral du Québec et également Québec solidaire, parce que je pense que même à gauche, on ne devrait pas être content de voir notre argent en tant que contribuable être utilisé pour faire des paris dans des entreprises, des multinationales. Donc éventuellement, peut-être que ce constat-là va rallier tous les partis de l'opposition puis forcer François Legault à changer de cap là-dessus. Mais d'ici ce temps-là, j'ai hâte de voir si le Parti québécois, ben, va être, si jamais ils arrivent au pouvoir, va être pareil que ce qu'ils disent présentement, parce que leur historique démontre que les subventions aux entreprises, ils aiment bien ça de leur côté aussi.
Je te souhaite une belle semaine de 4 jours. Une semaine de PQS.
À vous autres, avec. On va en profiter.
Salut,
salut, Nick.
Bye-bye, on se reparle la semaine
salut.
Prochaine. L'excellent Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Voulant en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca. On va faire une courte pause. On revient tout de suite. Si vous avez des choses à nous dire, c'est par texto. 418-971-1021. 418-971-1021. Juste avant la pause, Boulevard 101 qui célèbre ses 10 ans. Bientôt, en 2015, Leclerc Communication qui lançait une nouvelle station de radio dans le marché 100% conçu à Québec par et pour les gens de Québec. On est bien fiers de cette station de radio-là et notre station Sœur Week-end. La job que les boss ont faite dans les dernières années est juste incroyable. Et le 22 octobre, ça va être l'occasion pour nous autres de vous rencontrer, de vous remercier d'être là depuis les débuts de l'histoire de Leclerc Communication ou encore pour ceux qui sont arrivés dans les derniers mois, les dernières années. Donc le 22 octobre, dès 17h, il y a un événement qu'on fait, c'est les 10 ans de Boulevard. Ça va se passer au Malcommode. Il va y avoir la bière La Gravelle qui va être lancée. Il va y avoir une émission spéciale en direct. C'est la gang du retour qui va être là. Et parlant de la belle gang du retour, bien, il va y avoir l'intronisation au Radio Hall of Fame du duo Denis et Véro qui vont souligner les 20 ans de carrière ensemble, en duo. Il va y avoir de la musique live, bien entendu. C'est le Ben Big Muff qui va être là. Et il y a un paquet de surprises pour tous les auditeurs qui seront présents avec nous autres le 22 octobre dès 17h. C'est gratuit pour tout le monde, sauf qu'on fait tirer des accès VIP double qui va faire en sorte que vous autres, ben, vous allez avoir le droit au cocktail dînatoire et 2 consommations par personne. Donc, on va mettre ça par texto, si tu le veux bien, Jeff.
Bien
ça
sûr.
Ça va me prendre un mot de passe qui va sortir de ton imagination dans les prochaines secondes.
Compte tenu que Max a attrapé la grippe de Véro, on dit Véro comme mot de passe.
C'est Véro, parfait. Donc, le mot de passe, ça va être Véro. Vous me textez ça au 418-971-1021. Donc, venez passer une soirée mémorable avec toute l'équipe de Boulevard 101. C'est ouvert à tout le monde le 22 octobre dès 17h au Malcommode. Promenade Beauport, 3333, rue du Carrefour, c'est à Québec. Donc, accès VIP double à faire tirer, donnant accès au cocktail dînatoire ainsi que 2 consommations par personne. Bonne chance!
Marceau le